Le président de l'Union des producteurs agricoles, Marcel Groslot, voit son intégration au conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec comme étant l'occasion de faire passer à un niveau supérieur les relations de la production agricole avec les milieux de la restauration et de la gastronomie. Si l'on dit que l'agriculture, ou de façon plus globale, l'agroalimentaire, est une question de société et que tous doivent s'y intéresser, il est d'une logique implacable pour Marcel Groslot que les agriculteurs s'intéressent de plus en plus à la société et aux gens qu'ils approvisionnent avec leur production. Aussi, dans la recherche de nouvelles collaborations entre gens de la terre et gens de la table, il y a un univers de possibilités, de diversification et de spécificités. Avant de discuter d'actualités chaudes en cet été particulièrement chaud, justement, j'ai discuté avec le président de l'UPA de sa vision des relations entre son groupe et l'ITHQ. Monsieur Marcel Groslot, bonjour.
Oui, bonjour Lionel.
Monsieur Marcel Groslot, vous venez d'être nommé au conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Comment vous voyez cette nomination-là, le président de l'Union des producteurs agricoles à l'ITHQ?
En fait, Lisa Froula m'avait approché pour vérifier mon intérêt, puis elle avait un intérêt à ce que l'Union des producteurs agricoles soit là pour faire le lien entre l'institution et le milieu agricole. L'idée étant que mieux l'institution va connaître les tenants et aboutissants du milieu agricole, mieux l'organisation peut être en mesure de se développer. Et moi, j'aurais un rôle aussi à jouer dans la transmission vers le milieu agricole des intentions de l'institution et de ses projets, de son programme. Alors, créer un lien entre vraiment la terre et la table jusqu'à la gastronomie. C'est un peu ça l'intérêt de ma présence à l'Institut, puis j'espère pouvoir apporter ce volet-là à l'Institut.
Tout ça, c'est un peu dans l'esprit de ce que développe ou semble développer l'UPA depuis plusieurs années maintenant, c'est-à-dire de se coller davantage au monde agroalimentaire, de s'y intégrer davantage, de ne pas être des producteurs en retrait. Là.
En fait, le monde agroalimentaire, l'agriculture au Québec, c'est plusieurs façons de produire. On a des gens, des producteurs plus spécialisés qui produisent pour des restaurants, pour la gastronomie. On a des producteurs qui sont de proximité. On a les fermiers de famille maintenant. On a encore des producteurs, naturellement, puis ils sont très nombreux, qui produisent pour la transformation alimentaire. Mais tous, on est interpellés par la qualité. On est interpellés par ce que le citoyen exige de nous au niveau de l'environnement, au niveau du bien-être animal. On est tous interpellés de plus en plus par les citoyens qui sont de plus en plus intéressés à leur alimentation, qu'ils soient au restaurant ou que ce soit dans leur cuisine ou sur leur table. Alors, c'est là où il y a un lien maintenant qui est très concret, très réel, entre les producteurs agricoles et les citoyens et les consommateurs. Ça, je trouve que c'est motivant pour les producteurs agricoles parce qu'il y a une reconnaissance de ce qu'on fait. Des fois, on se fait critiquer un peu, mais en même temps, ça nous donne l'opportunité d'expliquer mieux ce qu'on fait puis de changer nos pratiques aussi. Alors, moi, je trouve ça extrêmement intéressant, ce qui se passe actuellement.
Il y avait, depuis un bon moment, déjà des liens d'établis avec des chefs. Mmh. Mais là, avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie, eh bien là, c'est la table est mise là, de façon beaucoup plus large.
J'espère qu'on pourra bénéficier l'un et l'autre de cette collaboration-là, l'Institut et le milieu agricole. En fait, les chefs ont mis les produits du Québec sur les tables. C'est évident. Et pas seulement que les chefs, mais les chroniqueurs alimentaires, les José Di Stadio de ce monde, Christian Bégin, ont mis les produits québécois sur les tables des Québécois. Alors, l'Institut va poursuivre ce travail-là. Il y a encore un travail de développement à faire. Si on regarde la France, par exemple, avec l'ensemble de ses terroirs, c'est magnifique ce qu'ils font, la France, depuis des années et des années, des décennies. Est-ce que le Québec pourrait migrer vers une forme de reconnaissance de ses terroirs, avoir une culture agro-gastronomique. Alors, ça serait vraiment intéressant si on pouvait faire ça.
De toute façon, vous allez travailler en ce sens-là.
Absolument. Moi, c'est mon intérêt. Voilà.
Monsieur Groslot, parlons de l'été, de la saison. Une saison très chaude, exceptionnellement chaude. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça. Des difficultés pour des producteurs dans plusieurs domaines.
En fait, les premiers qui ont été touchés, la canicule qu'on a eue en juin, qui a affecté beaucoup les producteurs, fraises, framboises, salades. Bon, c'est des produits qui n'aiment pas les chaleurs excessives, surtout sur de longues périodes. ça provoque un mûrissement rapide. Alors, ça, il y a eu des pertes. Là, dans le secteur des fraises, il y a eu des pertes notables. Après, bon, la pluie, la sécheresse qui a accompagné ça sur plusieurs semaines dans certaines régions. Ceux qui sont les plus affectés, c'est les producteurs laitiers, ovins et caprins. Bovins, c'est le manque de foin, le fourrage. Il y a des régions où c'est vraiment catastrophique. Que la financière agricole ait versé 27 millions en avance sur les règlements à venir, déjà en août, exceptionnel, ça s'est jamais vu. Donc, ça montre un peu l'urgence de la situation. Et c'est complexe parce que là, le foin coûte très cher et il est rare. Et il faut le transporter sur de longues distances. Donc, ça va entraîner des coûts importants.
Et on dit même que des régions périphériques, là, autour du Québec, là, Nouveau-Brunswick, on a eu beaucoup de chaleur, c'est pas mieux pour les foins. L'Ontario non plus.
C'est ça. Donc, l'Ontario, les Maritimes, c'est aussi très sec. Alors, nous, ce qu'on cherche à faire vraiment cette année, on ne voudrait pas que cette pénurie ou rareté de foin-là entraîne des producteurs à se départir de leurs troupeaux dans certaines productions. Alors, on veut absolument à tout prix éviter ça, et c'est pour ça qu'on a interpellé le ministre rapidement. On a organisé en différentes régions du Québec des pôles de communication, donc Bas-Saint-Laurent, Estrie. Ça fonctionne relativement bien, ça. Ça a déjà donné des résultats. Alors ça, c'est des actions concrètes qui ont été faites, soutenues par le ministre de l'Agriculture, M. Lessard.
D'autres producteurs qui ont des difficultés, mais cette fois des difficultés de marché, pourrait-on dire. Dans le secteur des grains, ça va pas très bien. Là.
En fait, dans le secteur des grains, si on prend le soya, puis avec les prix qui ont baissé récemment dû aux tarifs de la Chine sur les importations de soya américains, là, on voit qu'à court terme, il risque d'y avoir un surplus de soya sur le marché nord-américain. Est-ce que la baisse des prix va se poursuivre ou va se stabiliser? C'est des questions que les producteurs se posent. Alors, les producteurs ont demandé au gouvernement du Québec et du Canada, à l'instar de ce que M. Trump a fait aux États-Unis, il a annoncé 12 milliards supplémentaires pour les producteurs de soya. Alors, d'avoir, nous aussi, un programme qui permette aux producteurs de faire face à la situation et à l'incertitude qui prévaut actuellement dû à ça. Il y a les producteurs de porc aussi actuellement qui sont affectés parce que le même phénomène s'applique pour eux. Le Mexique a imposé des tarifs sur les importations de porc américains. La Chine a imposé des tarifs sur les importations de porc américains. Donc, les prix à la bourse de Chicago du porc ont baissé. Les futurs des prix à terme dans le porc sont à la baisse également. Donc, c'est sûr que pour les producteurs, c'est extrêmement inquiétant actuellement aussi pour les producteurs de porc. Puis, un autre élément que j'ai appris la semaine dernière, c'est les producteurs de pommes au Québec. Le Canada n'a pas appliqué de tarifs sur les importations de pommes américaines. Le Mexique le fait, la Chine le fait. Alors, le Canada risque de recevoir davantage de pommes ou provenant des États-Unis qui vont venir compétitionner les pommes canadiennes. Donc, au moment où la récolte semble abondante un peu partout dans le monde, alors les producteurs de pommes sont aussi inquiets. La récolte semble bonne aussi, moyennement bonne ici au Québec cette année, mais ça, c'est un autre secteur qu'il faudra suivre.
Et tout ça dans un contexte où on est toujours dans l'incertitude face à la renégociation de l'ALENA. Donc, c'est encore, si on veut, le bombardement entre frontières de mesures du genre.
Mais je ne sais pas jusqu'où, pour les Américains, la renégociation de l'ALENA est une priorité. Parce qu'ils ne mettent vraiment rien sur la table pour favoriser la négociation ou faire progresser cette négociation-là, que ce soit avec le Mexique ou avec le Canada. Alors, on entend M. Trump se plaindre quelquefois du Mexique, souvent du Canada. Et il a dit cette semaine qu'en fait, c'était pas très urgent de renégocier l'ALENA. Certains observateurs prétendent même que pour les élections de mi-mandat, ce serait préférable pour lui et sa base de continuer à se plaindre du Canada et du Mexique et de l'ALENA que d'essayer d'expliquer une entente. Alors, ça nous amène après novembre, ça nous amène en 2019. Alors, je pense que ce qui va être le plus difficile à gérer pour le Canada actuellement, c'est la guerre commerciale qui s'enclenche avec les tarifs sur l'acier et l'aluminium. Après ça, nous, sur les produits qu'on a imposés, ça va complexifier le commerce international, modifier les routes par lesquelles le commerce se fait aussi. Alors, on est dans cette situation-là actuellement. Et je crois qu'il faudra être patient et apprendre à tirer le meilleur de la situation malgré les complexités que ça peut entraîner.
Un petit coup d'œil du côté de mesures environnementales. Québec a reporté la mise en application de certains resserrements de règles environnementales s'appliquant à l'agriculture. Et aussi, en parallèle à ça, il y a Santé Canada qui dit que certains néonicotinoïdes vont être interdits d'ici 5 ans. Un petit mot là-dessus?
Bon, sur le report de l'adoption des règlements, on était plutôt satisfait parce que plusieurs des règlements, nous, on avait lu l'ensemble des règlements, des nouveaux règlements, et je peux vous dire que de comprendre ça, comprendre comment ces nouveaux règlements-là allaient être appliqués en regard de l'objectif de la révision de la loi qui était d'accélérer les processus, notamment de l'obtention des certificats d'autorisation, il y avait vraiment un problème, là. Et j'ai trouvé habile, Mme Melançon, qu'elle s'adjoigne les services de M. Pronovo et d'une autre experte, là, qui sont venus lui dire, écoutez, vous n'arriverez pas à réaliser l'objectif pour lequel vous avez fait tout ça avec cette réglementation-là. Donc, de reporter ça, je crois que c'est bien. Et ça fait réaliser aussi que le ministère de l'Environnement, il faut qu'il soit là pour accompagner le développement économique dans le respect de l'environnement, mais pas bloquer le développement économique. Actuellement, les règlements, de la façon dont ils sont appliqués, je prends le REA, par exemple, le règlement sur les entreprises agricoles, où on a un moratoire depuis 2004 sur les superficies en culture. On peut protéger l'environnement tout en accroissant les superficies en culture, si c'est bien fait. C'est un exemple concret de la façon dont le ministère de l'Environnement devait travailler. Alors ça, c'est une bonne chose. Sur les néoniques, c'est inquiétant parce qu'on bannit, mais on parle pas de... C'est quoi les solutions alternatives? Moi, j'aimerais que l'ARLA, Santé Canada, le gouvernement du Québec, le ministère de l'Environnement, si l'objectif, c'est de bannir ces produits-là, qu'on s'assoie ensemble avec les producteurs, qu'on regarde comment on peut y arriver, sur quelle échéance, sur les moyens qu'on se donne pour remplacer ces produits-là. Est-ce qu'on a investi en recherche? Oui, il faut absolument investir en recherche. Alors, de simplement bannir le produit, de risquer qu'on revienne aux molécules qu'on avait abandonnées, qui étaient plus toxiques que les néo, c'est pas une solution. Il faut avoir un plan d'action pour arriver au bannissement, pas simplement annoncer le bannissement.
En terminant, M. Groslot, les élections québécoises, c'est une question d'heure maintenant, là. Vous êtes prêt à l'UPA, vous allez recevoir les chefs des 4 principaux partis?
On va recevoir les chefs des 4 principaux partis le 5 et le 6 septembre. Une nouveauté cette année, c'est qu'on va diffuser sur Facebook l'échange qu'on aura, le Conseil général, avec chacun des chefs. Alors, ça va permettre aux gens, aux agriculteurs de participer, mais au moins de voir et d'entendre les échanges qui auront eu lieu. Puis, bon, nos demandes sont prêtes également, là. C'est sûr qu'on vient juste de parler d'agro-environnement. On va interpeller les chefs à ce sujet-là. La sécurité des risques également. Sur l'accès aux terres pour la relève, c'est un autre point qui sera important durant cette campagne-là, entre autres. Et toute la question de l'investissement en agriculture, la réalisation de la politique bioalimentaire. Il y a eu des annonces de fait, mais on veut connaître comment chaque parti, en regard de cette politique-là, va se comporter ou est-ce qu'ils vont adopter la politique, la bonifier, la changer, ou si on souhaite pas repartir en consultation. Ça, c'est sûr. Toute l'industrie, tous les producteurs, on ne souhaite pas repartir en consultation, on souhaite être dans l'action. Alors, c'est le message qu'on va transmettre à chacun des chefs.
M. Groslot, merci beaucoup. Bonne fin d'été.
Merci beaucoup, Lionel.
Ici Lionel Levac. Bientôt, je vous reparlerai de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, qui célèbre en 2018 son 50e anniversaire. Bien sûr aussi, je traiterai au cours des prochaines semaines de différents dossiers agricoles en parallèle à la campagne électorale québécoise qui nous mènera au scrutin du 1er octobre. À bientôt.